Bon, tout le monde a des tiroirs. Est-ce que vous avez un de ces fameux tiroirs, vous savez, où on met un peu de tout? Un tiroir fourre-tout. Oui? Là-dedans, il y a une paire de clés, il y a un vieux tube de dentifrice écrasé, il y a de tout, il y a une vieille facture. Vous avez un tiroir comme ça? Qui a un tiroir comme ça? Un tiroir pour mettre de l'ordre parce qu'on fait du fourre-tout. Ah, il y en a qui ne lèvent pas la main, ne me dites pas. Si c'est pas dans la voiture, dans la cuisine, c'est peut-être dans la voiture, dans le coffre à gants, ou dans le coffre de la voiture. Je me mets un peu plus près, c'est pas trop fort? Bon. Dans le coffre à gants de la voiture, ou dans le garage, tiens. Une boîte fourre-tout. Alors on va prendre celui de la cuisine. Celui de la chambre. De temps en temps, vous dites, il faut bien que je mette de l'ordre dans ce tiroir. Alors si vous avez du courage, vous le prenez, vous renversez tout sur la cuisine, sur la table de la cuisine, et vous dites, ça je le garde, ça je le jette. Hein? Si vous avez du courage. Ça je rangerai une autre fois, ça je le garde, ça je le jette, ça c'est pas bon pour moi. Mais vous connaissez quand même vos affaires. Même si vous allez la jeter, vous dites, ah oui, c'était... Mais supposez que dans le tiroir de cette cuisine, quelqu'un y ait mis une boîte de conserve écrasée, une peau de banane, une... Vous direz, mais ça, c'est pas moi qui l'ai mis. Et j'aimerais qu'on renverse un petit peu un moment le tiroir de notre cœur, qui est un peu un fourre-tout. Michel en parlait tout à l'heure, que le Seigneur nous aide à enlever les graviers et les épines qui sont dans notre cœur. Parce que dans notre cœur, je ne sais pas dans le vôtre, mais dans le mien, il n'y a pas que des bonnes choses. Et dans le vôtre, qui c'est qui est rempli de douceur? Rempli. Qui c'est qui est rempli de joie? Rempli, hein? Bon, qui c'est qui a un peu de joie quand même? Alléluia! Qui c'est qui a un petit peu de douceur? Alléluia, par sa grâce. Qui c'est qui est rempli du Saint-Esprit à déborder sur les autres? Ça vient, qui c'est qu'il y en a un peu quand même de cet esprit? Qui c'est qu'il y en a suffisamment pour marcher par la grâce de Dieu? Amen. Alléluia! Alors on va voir un peu ce qu'il y a dans notre cœur, puisque le vase est censé être terminé. Hein, on va prendre cette image. Le vase est terminé, il est étanche, il est grand ou il est petit, mais ce vase est inutile s'il est vide. La décoration, ça ne va pas bien loin. Le potier, le divin potier, ne fait aucun vase pour rien. Aucun vase pour aucun usage. Si tu es entre les mains du Seigneur, le Seigneur a un plan pour toi, un plan utile dans l'Église et hors de l'Église pour les perdus. Alléluia! Il faut des vases différents. Il faut des vases différents qui seront les différentes parties du corps de Christ. C'est normal si ton frère, si ta sœur est différent de toi. Le vase peut être ébréché, c'est sûr que nos vases sont ébréchés. Nos vases ne sont pas parfaits, mais c'est l'intérieur qui va être important. Alors, être rempli, oui, mais de quoi? Si tu penses à ton frère, à ta sœur, tu vas dire, lui, c'est... Elle sait. Et toi, tu es rempli de quoi? Qu'est-ce qui caractérise ta place dans le corps de Christ? Tu n'es pas beau par ton aspect, par ta décoration, même si ta décoration est spirituelle, même si tu as des titres spirituels, ce n'est pas ça qui fait ta perfection. Ton vase, tu es rempli, toi tu es le contenant et tu dois penser au contenu. De tous les usages des vases, celui qui a été le plus important au cours des siècles, c'est celui de boire. Le premier vase naturel fut la main. Vous êtes dans la nature, vous buvez à la source, vous prenez la main en forme de coupelle. Est-ce que ton vase, mon frère, ma sœur, est-ce que mon vase est plein d'eau? D'eau de Dieu, d'eau de vie, est-ce que ton vase est plein d'eau? Pas plus que ça? Est-ce que ton vase est plein d'eau buvable? Ça se corse. Souviens-toi de cette source qui donne quelquefois de l'eau douce et d'autres fois de l'eau amère. Supposez que vous ayez soif, vous allez dans le petit réduit derrière, il y a un robinet. Et aujourd'hui, vous y allez, vous voyez, eau non potable. Bon, vous vous abstenez. Dimanche prochain, vous arrivez, vous voyez, eau buvable. Ah, tiens, ils ont fait des travaux, ils ont mis un fil, quelque chose. Bon. Dimanche d'après, eau non potable. Vous ne savez plus où vous en êtes. Alors, on change l'écriture, on met eau tantôt potable, tantôt non potable, tantôt buvable, tantôt imbuvable. Est-ce que notre eau à nous est potable tout le temps ou quelquefois notre eau, lorsque nous sommes piqués, agressés, est-ce que notre eau n'est pas un peu imbuvable? À qui ça arrive ça? Et l'Écriture dit, il ne faut pas, frère, qu'il en soit ainsi. Dans l'Épître de Jacques, chapitre 3, verset 10, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Notre frère en parlait aussi. Il ne faut pas, frère, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Et ça, c'est pour les chrétiens. Frère, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Frère. Tantôt de l'eau douce, tantôt de l'eau amère. Comment voulez-vous, dans un bureau, dans le travail, que quelqu'un vienne s'abreuver auprès de nous si un jour il a été empoisonné par une parole qui l'a tué? Alors le Seigneur veut nous corriger, mettre un antipoison en nous et veut nous faire progresser. Une autre notion, c'est que si nous sommes remplis, ce sera la plupart du temps rempli pour les autres, rempli pour donner. Ce n'est pas pour le plaisir de se sentir plein, comme lorsqu'on a bien mangé. Si le contenu est finalement plus important que le contenant, vous allez me dire, à quoi ça sert d'apporter tant de soins au vase lui-même? Eh bien, il faut quand même un vase qui ne soit pas fendu, non éclaté. Il faut un vase qui ne sente pas mauvais, car il communiquerait la mauvaise odeur au contenu. Une autre chose importante, c'est de remarquer que ce n'est pas le potier qui remplit tous les vases qu'il fabrique. Qu'est-ce que je veux dire? Quand vous allez acheter dans un magasin une poterie, vous achetez un vase, il est vide. À moins d'acheter un pot de fleurs, mais il est vide. Et c'est vous qui allez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Vous l'achetez pour un usage. Le potier remplit seulement les vases qu'il garde pour son usage personnel, ou ceux qui lui sont consacrés, ou ceux qui se donnent à lui. Vous comprenez la portée spirituelle? Celui qui remplit le vase, c'est son propriétaire, ou celui qui en a l'usage. Mais cet usage peut être usurpé. Le Seigneur nous a fait pour que nous soyons remplis de sa vie. Mais l'ennemi, lui, veut nous ravir pour mettre des mauvaises choses dans le vase. Et les mauvaises choses qui sont en nous ne sont pas de Dieu. C'est vrai ou c'est faux, ça? Satan a pu remplir le vase. Quand nous revenons à Dieu, nous sommes rachetés par Christ, il en redevient le propriétaire, le vase va être retourné, vidé, nettoyé, gratté, rincé, purifié. Alléluia! Et on commence tout neuf. Ensuite, il faut veiller pour marcher en vainqueur. Mais on a pu remplir son propre vase pour se faire plaisir. On a pu le faire. On peut considérer que nous ne nous appartenons plus, nous nous donnons volontairement au divin maître. Il faut se donner volontairement à lui pour que lui remplisse notre vase. Il faut le renverser, ce tiroir de notre cœur. On ne peut pas dire je suis à la fois amour, mais je ne me laisse pas marcher sur les pieds. Je suis à la fois patient, mais ma patience a des limites. Je suis à la fois bon, mais il ne faut quand même pas pousser. Je suis à la fois juste, mais si je peux gratter un peu sur la TVA ou ici, je le gratterai. Il faut que ce qui n'est pas bon soit enlevé de notre tiroir pour que nous soyons agréables à Dieu. C'est quand même bien, c'est quand même mieux de s'approcher le matin, de vous rencontrer le Seigneur et qu'il n'y ait pas d'obstacle pour entrer le plus vite possible dans sa présence. C'est quand même bon, sa présence. Alors on va voir ce qu'il y a, les mauvaises choses et les bonnes choses. Notre vase se remplit plus facilement de mauvaises choses que de bonnes choses. Vous avez remarqué? Non? Alors vous êtes béni. Pourquoi ? Lorsque nous remplissons notre vase nous-mêmes, nous sommes influencés par nos convoitises. Lorsque Satan le remplit, il prend souvent notre vase pour une poubelle, vous avez remarqué ? Chrétien, depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, et d'un coup, il arrive quelque chose de vraiment catastrophique. C'est pas l'œuvre du Seigneur, ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Il peut y avoir de la vase dans notre peau, du vin changé en vinaigre, de l'eau croupie. Alors on va voir si vous êtes exempt, si nous sommes exempts de mauvaises choses. Prenons le premier verset, dans Luc 4, 28. Alors, on pourrait dire rempli de bonté, de compassion, de tout un tas de qualités, ou rempli de péché, ou faites le bien, ne faites pas. Là, j'ai pris le mot dans l'écriture où chaque fois on trouve rempli ou plein de. Hein? Alors, on va voir plein de ou rempli de mauvaises choses, et ensuite, surtout, ce qui nous intéresse, c'est plein de, rempli de bonnes choses. Le 4:28, on voit que les gens de la synagogue furent tous remplis de colère. Luc 6, les scribes et les pharisiens furent remplis de fureur. Alors, je voudrais vous dire que il faut se sentir concerné par la colère et par la fureur. Il ne faut pas dire ça, c'était dans la synagogue, c'était les pharisiens, ils ont toujours des problèmes, cela. Je veux parler, mon frère, ma sœur, de ton foyer, de ta maison, de ta relation avec ta femme, ton mari. S'il t'arrive d'être rempli de colère ou de fureur, c'est quelque chose qu'il faut sortir du tiroir de ton cœur. S'il t'arrive d'être beau, d'être bon, d'être magnifique dans l'église, et puis d'avoir des conseils d'administration dans ou hors de l'église en étant rempli de colère, de fureur, d'animosité, ou pour ta copropriété, à ce moment-là, il y a quelque chose qui n'est pas de Dieu. Et ça, il faut le sortir du tiroir. Ça, c'est pas bon. Donc, il faut se sentir concerné par la colère, par la fureur. Regardez Actes 5, 3, où il est dit, et là, on voit l'œuvre de l'ennemi. Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur ? Il a mis un peu, il a rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit. Actes 5, 17. On voit qu'ils se levèrent remplis de jalousie. Qui sait qui a un peu de jalousie dans son cœur? Et qui sait qui n'ose pas le dire? Qui sait qui est un peu jaloux quelquefois sur le lieu de son travail? Ou qui sait qui est un peu jaloux ou beaucoup jaloux dans l'église et qui n'ose pas le dire? Et ça, il faut l'enlever. Jaloux à cause de la position d'un tel ou d'un autre, jaloux à cause de la fonction d'un tel ou d'un autre, jaloux à cause de la connaissance, de la maîtrise, de la parole ou toutes autres choses. Jaloux un tel sait bien bricoler, l'autre ne sait pas tenir un tournevis. La jalousie qui s'installe, qui a l'air de rien, la jalousie qui est dans le tiroir, ça il faut l'enlever. La jalousie ce n'est pas un fruit de l'esprit, mais malheureusement la jalousie existe dans l'Église. La jalousie existe dans le cœur du chrétien, comme la colère, comme la fureur. Il faut que ces choses-là diminuent et que les choses de l'esprit augmentent. Alléluia, vous croyez à ça? Ça ne vous ennuie pas que je sorte un petit peu des versets qui parlent de mauvaises choses, puisque c'est la parole, il faut bien de temps en temps se le remémorer. Donc ce n'est pas mon cru, hein, je ne fais que l'intermédiaire. Et si vous voulez me taper dessus, vous me tapez dessus après, ce n'est pas grave. Romains 1, 29. Il est parlé là d'être rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle. De querelle. De ruse. Rapporteur, tiens. Tu sais pas ce qui est arrivé cette semaine, le frère Antin. Et la sœur, toi, on croyait qu'elle était si belle et pas si tant que ça. Mais ça, c'est les mauvaises choses dans le cœur. Alors même si la gazette évangélique, qui court d'ailleurs inter-église, peut avoir un certain attrait, mais c'est pas bon. C'est pas quelque chose qui édifie. C'est pas quelque chose qui bâtit sur le roc. C'est quelque chose qui tourne, qui vire, qui n'est pas bon, et qui finalement, si un tel a fait ça, ou s'il se passe telle ou telle chose dans telle église, c'est parce que moi, c'est parce que nous, on est meilleurs. Alors, comme l'autre, il n'est pas bon, moi, je suis meilleur. C'est pas un bon sentiment. Matthieu 23, 25, il est parlé là d'être plein de rapine et d'intempérance. En français courant, c'est rempli du produit de vos vols et de vos mauvais désirs. Si vous le permettez, et avec l'autorisation des responsables, un jour nous parlerons du mensonge et du vol dans l'Église. Je vous garantis qu'il y a plus de menteurs et de voleurs que nous le croyons. C'est parce que nous avons besoin de l'éclairage du Saint-Esprit pour que notre vie soit plus droite et plus pure devant Dieu. Mais on l'abordera que par autorisation. Donc si vous ne voulez pas l'entendre, vous le dites à vos responsables et je m'abstiendrai. Matthieu 23, 27, on va voir de quoi ils sont pleins ceux-là. Malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors. Ça c'est notre costume du dimanche, nos attitudes du dimanche lorsqu'on vient à la maison du Seigneur. Au dehors, blanchi. On blanchissait au mois de mars, tous les ans, les sépulcres qui étaient taillés dans le roc. On les blanchissait à la chaux pour qu'ils paraissent beaux. Mais dedans, ça sentait mauvais. Il faut être vrai, comme nous sommes. Si nous sommes encore pécheurs, si nous sommes défaillants, pas que nous vautrions dans le péché, mais si nous arrivons de trébucher, ne faisons pas comme si nous ne trébuchions pas. Demandons la grâce du Seigneur, demandons la prière des frères, des sœurs, des anciens. Afin, vous avez vu tout à l'heure, ce n'est pas une prière de jugement. On doit voir celui qui est dans l'embarras, celui qui a un problème. Eh bien, il est intéressant. Parce qu'il faut prier pour lui. Il faut gagner avec lui, avec l'aide du Seigneur. Alléluia. Et il y a beaucoup de joie lorsque quelqu'un était en bas et qu'on le voit en haut. Amen. Matthieu 23, 28. Vous de même, dehors, vous paraissez juste aux hommes. Donc vous de même, c'est plus les pharisiens, hein? Mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité, pas d'hypocrisie. Soyons vrais. C'est vrai que des fois, c'est dur d'être vrai. Parce qu'on a voulu être vrai, on a voulu être transparent. Et du coup, alors après, on ne dit plus rien. Mais il y a dans toutes les églises des frères, des femmes de confiance, des hommes de prière qui pourront aider, secourir, tendre la main. C'est vers cela qu'il faut aller en attendant que les autres soient édifiés et qu'ils puissent eux aussi devenir des aides, des secours. Alors qu'est-ce qui est réservé à ces pharisiens hypocrites, ceux qui sont pleins d'hypocrisie? Bien, le Seigneur dit, serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Deux pierres enfin pour les mauvaises choses, on pourrait en ajouter beaucoup, mais grâce à Dieu, il y a beaucoup de défauts dont nous ne sommes pas pleins. Nous ne sommes quand même pas pleins d'avarice. Nous ne sommes quand même pas pleins de mensonges. Mais il y a des choses qui sont sournoises. Là, il parlait de ceux qui ont les yeux pleins d'adultère dans Pierre 2, 14. Insatiables au péché. Allez, on va parler des bonnes choses. Vous en voulez? Et vous avez vu que dans les mauvaises choses, nous sommes quand même concernés, oui ou non? Ne serait-ce que par la colère, l'animosité, tout ça, c'est pas bon. Les bonnes choses, premièrement, celui qui peut nous remplir. Alors, on a vidé le tiroir, on a tout mis, on fait le tri avec sa grâce, et qui c'est qui va nous remplir? C'est nous, on va trier? Non. On va être aveuglé par notre moi, par notre convoitise, par notre orgueil. Il faut vraiment toute sa grâce que ce soit lui qui nous remplisse. Éphésiens 1, 23. Christ qui remplit tout en tous. Ah, je devrais entendre. Alléluia! C'est pour tous. Alléluia! Je cherche pas à faire de l'écho. Pas du tout. Éphésiens 3, 19. Afin que vous puissiez connaître l'amour de Christ. Qui surpasse toute connaissance. plus que la connaissance, l'amour. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Les trois choses principales, vous les retiendrez, j'espère, dont nous devons être remplis, c'est, allez, au hasard, l'amour, la justice, la paix, la joie, c'est bon tout ça. Le Saint-Esprit, ah là il y a une clé, hein, parce que s'il y a le Saint-Esprit, l'amour, la joie, la paix, la compassion, ça c'est miraculeux mon frère, parce que rempli de compassion, si on en avait seulement la moitié déjà, hein, rempli de compassion. Mais on va voir ce que l'Écriture nous demande d'être rempli. Rempli. Ah, rempli des fruits de l'Esprit. Mais ça c'est pareil. C'est miraculeux. Autant de fois miraculeux que chaque fruit de l'Esprit, bien sûr. Qui c'est qui est rempli dans le fruit de l'Esprit, donc vers la fin, la maîtrise de soi. Qui c'est qui est rempli de la maîtrise de soi? L'Église a besoin de personnes comme ça qui sont remplies de la maîtrise d'eux-mêmes. Bon, il faudra faire avec alors. Alors, la première chose, c'est, qu'on va trouver dans l'Écriture, c'est rempli du Saint-Esprit. C'est pas étonnant. Rempli du Saint-Esprit. Et on trouve Jean-Baptiste, Luc 1, 15, il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint, dès le ventre de sa mère. Il n'est pas dit qu'il avait une petite onction de l'Esprit sur sa vie, mais qu'il était rempli de l'Esprit Saint. Élisabeth ensuite, Luc 1, 41. Dès qu'Élisabeth a entendu la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, donc il fut rempli du Saint-Esprit comme annoncé, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Donc c'est possible. Élisabeth était une femme, Jean-Baptiste était un homme de la même nature que nous. Remarquons maintenant que lorsque le Saint-Esprit remplit une personne, il s'ensuit une action, il s'ensuit quelque chose. Ce n'est pas un simple poinçon. C'est-à-dire, je suis rempli du Saint-Esprit, bon, mais tu es un heureux tout seul. Tu es rempli du Saint-Esprit, pourquoi faire? Pour que tu sois visité, oui, mais plus encore, rempli du Saint-Esprit pour quelque chose. Zacharie, Luc 1, 67, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et quoi? Et il prophétisa, il se passe quelque chose. Ça ne veut pas dire que chaque fois que vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous devez prophétiser. Mais ça se peut. Les disciples dans la chambre haute, acte 2, 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 4, 31. Quelqu'un parle d'évangélisation, je crois que c'est Michel tout à l'heure. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, pof, et ça s'arrête là. Non. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Parce que si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on ne peut pas annoncer la parole de Dieu avec assurance. Ça va être une communication intellectuelle, ça ne va rien apporter. Pierre, lui aussi, acte 4, 8, Pierre fut rempli du Saint-Esprit. Étienne, acte 7, alors, s'il se passe quelque chose, il fut rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, il vit la gloire de Dieu. Ce n'est pas rempli des choses charnelles qu'on peut voir la gloire de Dieu. Et rempli du Saint-Esprit, oui. Et il vit Jésus debout à la droite de Dieu. Vous allez dire, ça c'est des hommes, c'est des hommes, des femmes, de l'Écriture, c'était des saints, mais nous, dans notre vie actuelle, c'est plus difficile. Qu'est-ce qui nous est demandé? Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Acte 6, 3. On se trouve là dans l'église. Choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint, mais aussi de sagesse. la sagesse, qui en a assez? Je ne sais pas comment poser la question pour que vous me répondiez. Alors j'ai dit, qui en a assez de la sagesse? Donc je sais que personne n'en a assez. Parce que si j'avais dit, qui manque de sagesse, personne n'aurait levé la main. Mais vous savez que l'Écriture dit que celui qui manque de sagesse va demander à Dieu, qui donne à tous sans reproche. Et vous savez quand est-ce qu'on demande la sagesse? Quand on en parle, ou quand on tombe dans l'épître de Jacques, ou on tombe sur ce verset. Mais on a besoin de la sagesse tous les jours, afin de bien discerner, afin de bien aider, afin de bien construire, afin que la sagesse divine passe avant la sagesse humaine. La sagesse humaine est diabolique, dit l'Écriture. Nous avons besoin de la sagesse en nous, impulsée en nous par le Saint-Esprit. Il faut le demander chaque jour, ça. Acte 1, 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Est-ce que vous l'avez reçu? Oui. Amen. Et voilà ce qui nous attend, vous serez mes témoins. Amen. Alléluia. Chacun de nous peut être un témoin. Il y a de multiples manières. Si vous saviez comment être témoin, même en étant chez soi, même un jour de pluie, même quand il y a l'orage, même il y a des choses extraordinaires. On en parlera un jour. C'est donc la première chose, être rempli du Saint-Esprit. Alors je sais que ça fait un peu théorique, hein. Notre vie est tellement difficile, tellement harcelante. Je voudrais vous rappeler Ésaïe 11:2. Je crois qu'il n'est pas là, mais c'est pour vous rappeler que rempli du Saint-Esprit, ça doit toujours aller avec l'esprit de sagesse et d'intelligence spirituelle. Selon Ésaïe 11:2, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et il est dit de Jésus, Luc 2, l'enfant croissait, se fortifiait, il était rempli de sagesse. Deuxième chose très importante, après être rempli du Saint-Esprit, alors bien sûr, on pourrait délayer sur tous les fruits de l'Esprit, mais ça c'est autre chose. Parce que si on prend chaque fruit de l'Esprit séparément, il ne nous est pas demandé, je vais peut-être vous faire sauter, mais il ne nous est pas demandé de chaque fruit de l'Esprit d'en être rempli, parce qu'il ne nous est pas demandé des choses impossibles. Si ? Parce que sinon, nous être frustrés sans arrêt toute notre vie. Le Seigneur sait de quoi nous sommes faits, nous devons tendre par un but, nous ne serons jamais parfaits qu'au travers de Jésus-Christ. Et Dieu nous voit parfaits au travers de Jésus-Christ et de son œuvre. Parce que si nous voulons être parfaits dans l'amour, parfaits dans la joie, parfaits dans la maîtrise de soi, eh bien nous allons pleurer tous les soirs. Nous devons aller de perfection en perfection, progresser. Mais alors, qu'est-ce qui nous est vraiment demandé d'être rempli? Il nous est demandé d'être rempli d'amour. Alors ça, c'est écrit. C'est écrit. Être rempli d'amour. C'est une nécessité, ce n'est pas une option, c'est l'ABC du chrétien. Romains 12, 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Il n'est pas parlé à l'extérieur, là, il est parlé amour par amour fraternel, donc dans l'Église, plein d'affection. Ton frère n'est pas parfait, c'est pour ça qu'il est dans l'Église. C'est un endroit où on peut progresser, on s'aide, on se serre les coudes, on ne tue pas les blessés. Quelqu'un a dit, l'Église est la seule armée où on tue les blessés. Ça, c'est... On ne veut pas tuer les blessés dans l'Église. Quelqu'un qui est blessé, on veut le soigner. Alléluia. Il faut que ça soit en nous, ça. Tu as quelqu'un qui est retombé dans le péché et pourtant tu t'es donné. Tu as passé des soirées avec lui. Tu as prié, tu as jeûné pour lui. Mais maintenant, il est retombé. Ne le laisse pas tomber. Si toi, tu es debout, prends garde de ne pas tomber. Si tu crois être debout, dit l'Écriture, prends garde. Mais aide-le. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Et je pourrais dire les uns pour tous les autres. Même ton ennemi dans l'église. Sois plein d'affection. Il n'y en a pas. Sois plein d'affection. Même pour celui qui sent mauvais, même pour celui qui ne te dit pas trop bonjour, même. Romains 15, 14. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes plein de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Alors, je ne vais pas le redire tout ce que j'ai dit précédemment. Tite, chapitre 3, verset 2. Je suis désolé, mais je vous donne beaucoup, beaucoup la parole et peu d'images, parce qu'il faut que cette parole se grave dans notre cœur. Hein. Donc nous sommes exhortés là de ne médire de personne, d'être pacifique, et dans notre verset, il nous est demandé d'être des ouvriers de paix, d'être pacifique, de ne pas ajouter du bois lorsqu'il y a feu, lorsqu'il y a une petite... Ne pas en rajouter, mais plutôt un artificier du Seigneur pour être un désamorceur de bombes. Être un désamorceur de bombes dans l'Église, être un désamorceur de problèmes. Il y a un problème, je n'en rajoute pas, je vais avec l'aide du Seigneur désamorcer et me faire un malin plaisir que le conflit naissant devienne une source de bénédiction. Soyez plein de douceur et soyez plein de bonnes dispositions. Soyez pacifique envers tous les hommes. 1 Pierre 3,8. Soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments. Vous savez, les apôtres avaient déjà les mêmes problèmes avec l'Église, parce que les hommes sont les hommes. Soyez plein d'amour fraternel, de compassion et soyez plein d'humilité. Moi. Soyez plein d'humilité. On aurait tendance à dire, bon, l'esprit, un peu d'amour, un peu d'humilité. Un peu d'humilité au fond, et puis le moine dessus. Alors, mais non, l'humilité, c'est quelque chose, il faut être plein. Ça fait beaucoup. Hein. Et l'humilité, c'est... C'est l'inverse de l'orgueil, donc, et l'orgueil, c'est une ronce qui... C'est comme le chien dent, ça repousse. Donc on n'est jamais débarrassé de l'orgueil. Aujourd'hui, on peut sortir avec un sentiment de vouloir être humble, et puis ce soir, pof, ça repousse. Donc il faut veiller sans cesse. Philippiens 1,9. Donc on est toujours dans la section remplie d'amour quand même. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en pleine connaissance, en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice, riche des actions justes, c'est-à-dire, qui est par Jésus-Christ à la gloire, la louange de Dieu. Que votre amour augmente de plus en plus. Je suis désolé, on est dans l'église. On n'est pas dans un club, on n'est pas dans une association. On ne peut pas dire j'aime juste là, mais après il ne faut quand même pas me prendre pour une poire chrétienne. Je ne suis pas un chrétien William. Donc ça c'est bon. Il y a mon amour, oui, parce que c'est un commandement du Seigneur, mais après il y a quand même ma position, et puis je ne suis pas n'importe qui. Donc jusque-là c'est bon, mais après non. Et bien, ça c'est le raisonnement humain encore une fois. Et l'Écriture dit que votre amour augmente de plus en plus. Il dit pas, t'as réussi jusqu'à présent, c'est bon, passe à autre chose. Non, non, il augmente de plus en plus. Et pourtant, il dit d'en être plein. Alors celui qui en est plein, ben, qui augmente encore plus. Comme ça va déborder sur les autres et ça va leur faire bien. Moi, j'ai besoin d'amour, comme toi, mon frère, comme toi, ma sœur. Qui n'a pas besoin d'amour dans l'Église? Qui est suffisant? Même si nous avons l'amour du Seigneur, alléluia. Il nous a parlé de cet amour fraternel. Je suis sûr que mon frère Michel et son épouse ont besoin d'amour fraternel. Tu confirmes? Parce que de temps en temps, pas la flatterie, mais il faut une caresse d'amour qui cicatrise le coup de bâton, mal compris. il m'a rien dit, mais c'est tous les serviteurs de Dieu comme ça. Donc, malgré les coups sur les chines, eh bien, on regarde vers haut et on continue. Et on veut aider et aimer même celui qui nous donne un coup. Vous vous rendez compte? Alléluia. Et le troisième point, donc le premier, rempli du Saint-Esprit. Le deuxième, rempli d'amour. Et là-dedans, il y a l'humilité, il y a la compassion. Et le troisième point, où c'est vraiment souligné dans l'Écriture, parce que ça pourrait pas être dur, ça pourrait paraître dur. Rempli du Saint-Esprit, ouais, mais rempli, et comment je fais? Je voudrais être rempli, j'y suis pas, bon, je voudrais être rempli d'amour, je voudrais aimer, j'arrive pas, quand même, lui, pour être rempli d'amour avec lui, franchement, hein, il faut. Ça a bien dit la difficulté quelquefois, on veut aider quelqu'un, bam, bing, bon. Des fois, c'est pas facile. Alors, malgré tous ces points un peu difficiles, eh bien, le Seigneur nous promet la joie. Être rempli de joie. Acte 2:28, tu me rempliras de joie par ta présence. La joie du Seigneur. Acte 13:52, les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Alléluia! Ça va pas avec la tristesse, oh ça y est, j'ai reçu le Saint-Esprit, alors il va falloir que je sois un témoin à ma voisine, ça va être dur, il va falloir que je sois un témoin dans le bureau. Non, non! Rempli de joie et du Saint-Esprit, la joie du Seigneur est ma force. Alléluia! Acte 14, 17. En vous dispensant du ciel, les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant de la nourriture avec abondance et remplissant vos cœurs de joie. Romains 15, 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Je vais vous dire ce que ça veut dire. Que le Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie. Il y en a, je les vois malheureux. Que ce Dieu-là vous remplisse de joie. Mais là, je parle de la vraie joie du Saint-Esprit. Parce que je vais vous dire quelque chose de très classique. C'est que dans toutes les églises, on chante, par exemple, « Éclate de joie mon âme ». Vous connaissez? Et alors là, c'est classique que celui qui fait chanter, lorsqu'il a fait chanter une strophe ou deux, ils disent aux chrétiens, éclate de joie, mon âme. Hein? Alors, celui qui fait chanter dit, on va le reprendre. D'accord, c'est ce qu'on voudrait. Mais du coup, tout le monde se met en position. Comme ça? Mais c'est forcé. C'est forcé. Mais la joie du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, le jour où ça nous tombe dessus. Alors là, pas besoin de nous dire, là, ça se voit. Alléluia. Et c'est tes promesses. Tu me remplis de joie par ta présence, et t'en remplis de joie et du Saint-Esprit, ça va avec. Alors, ça signifie, vous remplissez de toute joie, donc Romains 15, 13, oui, ça veut dire extrêmement réjoui. Que ce Dieu-là vous rende extrêmement réjoui. Hein, des sourires comme ça. Ça dépend des cultures, c'est vrai, hein, parce que bon, des fois on a critiqué, on a dit, moi j'ai ma joie profonde, donc je l'exprime pas, bon, etc. Mais il faut respecter quand même le tempérament de chacun, parce qu'on peut être très, 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 très heureux dans le Seigneur, c'est vrai, sans que ce soit manifesté, c'est certain. Regardez un Suédois, regardez un Espagnol, ça réagit différent, bon. Mais malgré tout, que ça s'exprime de façon visible ou bruyante ou pas, le Seigneur va nous remplir de cette joie, que nous soyons extrêmement réjouis dans toutes les fibres de notre corps. Alléluia. Ton frère, ta soeur ne le verra peut-être pas, ou il le verra, parce que tu vas te mettre à courir partout, ou tu vas rester sur ta chaise, mais tu seras dans une extase spirituelle extraordinaire, parce que tu es visité par le Saint-Esprit. On n'a pas besoin de t'expliquer ce que c'est, qu'est-ce qui se passe. Tu sais que le Seigneur là fait toute ta joie. Alléluia. C'est une promesse pour nous. Soyez extrêmement réjouis. Donc que le Dieu, voyez jusqu'à la fin du verset, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix. Soyons donc des instruments de paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes donc appelés à être remplis, premièrement, du Saint-Esprit, Deuxièmement, d'amour. Oui, au contraire. Rempli du Saint-Esprit, rempli d'amour et rempli de joie. Alléluia. Pardon, Saint-Esprit, l'amour, la joie. Si nous gagnons, si nous croissons cette semaine dans l'Église, hors de l'Église, dans notre famille, avec notre épouse, dans le bureau, dans ces trois domaines, nous marchons en vainqueur avec sa grâce. Alléluia. On va prier le Seigneur. Je m'arrête à ce matin. Seigneur, nous voulons répandre nos cœurs devant toi maintenant. Certainement que les uns les autres nous aurions honte si notre cœur était déballé, mis sur une table, avec ce que nous réussissons un peu à faire, avec tous nos échecs. Nous aurions honte. Nous aurions peur d'être jugés parce que tout le monde n'est pas prêt à accepter nos faiblesses ou nos difficultés. Et nous voulons ouvrir nos cœurs devant toi, Seigneur. Parce que toi, tu es notre Père. Nous nous réclamons de toi par Jésus-Christ, ton Fils. Nous sommes enfants, nous avons besoin de ton éducation, Père. Nous avons besoin de ton aide, de ton bras tendu. S'il te plaît, aide-nous à enlever ce que nous n'avons pu faire depuis tant d'années. Nous avons essayé d'enlever, mais nous avons gardé parce que nous l'avons fait nous-mêmes. Nous te demandons plus d'amour parce que notre amour humain s'arrête bien vite. Donne-nous plus d'amour. Donne-nous plus d'amour dans la relation avec nos enfants. Donne-nous plus d'amour dans la relation avec notre épouse, avec notre mari, avec nos parents. Nous t'en prions, Seigneur, que nous puissions grandir dans l'amour encore. Nous puissions être des ouvriers de paix, Seigneur. Des ouvriers de paix dans notre relation avec notre femme, notre enfant, notre mari. Tu vois le beau costume spirituel que nous mettons lorsque nous venons à l'église. Et ce costume, nous l'accrochons derrière la porte lorsque nous rentrons à la maison. Et notre femme, notre mari ne nous reconnaît plus quelquefois. Nos enfants nous jettent à la figure quelques paroles. Ah, c'est ça, chrétien ? Aide-nous à marcher de victoire en victoire, Seigneur. Donne-nous de jamais manifester de colère injustifiée envers nos enfants, envers nos proches. Toutes les mauvaises choses qui sont en nous, nous reconnaissons qu'elles ne viennent pas de toi. Et te demandons ton aide, Seigneur, afin qu'elle soit extirpée, anéantie par ta grâce. Tu vois l'animosité qui germe si facilement en nous, ou les médisances, ou le fait d'être rapporteur de choses qui n'édifient pas. Donne-nous de bâtir toujours, et de ne pas diviser ou détruire. Donne-nous de désamorcer les conflits et de ne rien ajouter. Qu'on puisse reconnaître en nous quelque chose de divin, nous t'en prions, Seigneur. Te demandons la joie de ton salut. Alléluia, la joie du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas être des marionnettes, faire celui qui est joyeux, mais nous voulons que quelque chose soit plein en nous et que nous soyons toujours joyeux. Alléluia. Pas d'une joie charnelle, mais de la joie du Saint-Esprit. Je suis content comme je suis, cela me vient de Dieu. Je suis repu par la présence du Seigneur. Alléluia. Et je peux aborder la vie avec sérénité parce que tu es avec moi, Seigneur. Alléluia. 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 Je demanderai à ceux qui veulent que quelque chose se passe aujourd'hui. Qu'ils se lèvent à leur place tout simplement maintenant. Personne ne regarde personne. Vous levez devant le Père qui peut faire. Il va enlever des difficultés. Il va enlever tes échecs. Ton mauvais caractère, il veut l'enlever. Amen.